Radio Prague, les informations.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de Radio Prague. La République tchèque favorable à la création d'un garde-frontière européenne. La correspondance du Premier ministre de nouveau publiée sur le site White Media. Et un amendement à la loi devrait limiter la vente du vin trafiqué. Comme a annoncé un des titres, le gouvernement tchèque soutient des propositions de la Commission européenne visant à gérer la protection des frontières de l'Union européenne. Depuis le début de la crise migratoire, la République tchèque a signalé que l'Europe devrait attirer son attention vers une amélioration de la protection des frontières extérieures de l'espace Schengen, a annoncé ce lundi le Premier ministre Bohuslav Sobotka. La Commission européenne propose notamment de créer un corps de garde-frontières et garde-côtes européennes et d'instaurer des contrôles pour les personnes à l'entrée et à la sortie de l'espace Schengen. Selon Bohuslav Sobotka, cette unité spéciale pourrait engager également plusieurs dizaines d'experts tchèques. Politique, une troisième série de courriers attribués au Premier ministre Bohuslav Sobotka a été diffusée ce lundi sur le site néo-nazi White Media. Après avoir piraté son compte Twitter en décembre dernier, les hackers nationalistes, comme se présente ce groupe d'activistes anti-migrants, se sont introduits dans la boîte mail du Premier ministre et ont diffusé, en trois reprises déjà, certains de ses courriers. L'authenticité des mails reste non confirmée. Si le ministère de l'Intérieur considère ces actes comme une grossière manipulation des faits, le site qui menace de mettre en ligne l'intégralité de la correspondance qui comporterait, dit-il ses auteurs, même des documents ayant été placés sous le sceau du secret, nie une quelconque falsification des documents. Outre la police, l'Office national de sécurité enquête désormais également sur cette affaire. Société. C'est en tout 572 enfants tchèques, essentiellement des garçons, qui ont été adoptés par des familles à l'étranger au cours de ces 15 dernières années. La plupart d'entre eux vivent aujourd'hui au Danemark, en Allemagne, en Suède et en Italie, selon des informations du ministère du Travail et des Affaires sociales. La plupart de ces enfants se trouvaient en foyer d'accueil depuis plus de 3 ans et leur chance de trouver des parents adoptifs en République tchèque était faible. Selon le ministère, ces enfants adoptés par des familles étrangères représentent un dixième de toutes les adoptions. Économie. En 2015, l'aéroport Václav Havel à Prague a enregistré plus de 12 millions de voyageurs, soit une augmentation de 7,9% par rapport à 2014 et la plus forte augmentation depuis au moins 10 ans. Selon les représentants de l'entreprise, cette croissance est due notamment à un nouveau programme de réduction destiné aux partenaires ayant ouvert de nouvelles destinations et mis en service de plus gros porteurs. De nouveaux transporteurs aériens ont également amené à Prague davantage de touristes. Ainsi, en 2015, 27 nouvelles lignes aériennes reliant Prague à d'autres destinations ont été ouvertes et 8 nouvelles compagnies aériennes se sont implantées sur le marché tchèque. La société Český Aeroholding s'attend à une nouvelle augmentation du nombre de voyageurs cette année aussi. Agriculture. Afin de lutter contre la vente du vin trafiqué, le gouvernement a adopté ce lundi un projet d'amendement à la loi sur la viticulture. Repoussé à plusieurs reprises, ce dernier, qui devrait entrer en vigueur en juillet ou août prochain, apporterait des changements, notamment dans la vente du vin en vrac. Selon les analyses effectuées par la Fédération nationale des viticulteurs, 150 millions de litres du vin vendu sur le marché font partie de l'économie crise. Il s'agit souvent du vin d'une qualité inférieure, indique le social-démocrate Jan Haïda. Nouvellement, une amende au montant maximal de 50 millions de couronnes, près de 1,85 million d'euros, pourrait également être attribuée aux vendeurs du vin coupé à l'eau, à l'alcool ou au sucre. On se termine comme toujours avec la météo. Comme ces derniers jours, c'est un temps essentiellement couvert, voire même potentiellement neigeux ce mardi, jour de la fête des Dobravka. Les températures vont de moins 11 à moins 7 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce bulletin information qu'a eu le plaisir de vous présenter Alžběta Tichá. Merci de votre attention. On retrouve maintenant avec le même plaisir Pierre Maignan qui nous a rejoint au studio et nous accompagne pour la suite de cette émission. Très bonne écoute.
Faits et événements en République tchèque. Bien le bonjour les amis et bienvenue à l'écoute du programme quotidien de Radio Prague consacré, comme vous le savez, à l'actualité tchèque. On remercie tous ensemble tout d'abord Alžběta Tigra pour son bulletin d'information. Au sommaire de cette édition, on parle de la visite en Iran du ministre tchèque de l'Industrie et du Commerce qui coïncide avec le début de la levée progressive des sanctions économiques qui visent Téhéran. On évoque ensuite un projet tchèque en Guinée afin de favoriser l'accès à l'eau potable. Et puis, comme chaque lundi, on retrouvera la traditionnelle rubrique sportive de Guillaume Narguet. Bonne écoute à tous et à toutes. C'est à la tête d'une délégation forte d'une soixantaine de représentants d'entreprises tchèques que le ministre de l'Industrie et du Commerce, Jan Mládek, effectue depuis vendredi une visite de 4 jours en Iran. Cela tombe bien, c'est également ce week-end que l'accord sur le nucléaire iranien est entré en vigueur, ouvrant la voie à une levée progressive des sanctions économiques affectant Téhéran et par là même à une ribambelle d'opportunités pour les sociétés tchèques. Signé au mois de juillet dernier, ce plan global d'action était l'aboutissement de longs mois d'une difficile négociation entre les grandes puissances et l'Iran. Il a pris effet ce samedi 16 janvier avec pour conséquence principale la levée des sanctions décidées en 1996 par les États-Unis à l'égard de la République islamique, un processus qui devrait s'échelonner sur 10 ans. En Europe comme ailleurs, tous les pays ont les yeux rivés sur ce marché de 80 millions d'habitants susceptible de fournir de nouveaux débouchés à leurs entreprises. La République tchèque ne fait pas exception à la règle, comme le confirme le Premier ministre Bohuslav Sobotka. À vrai dire, nous n'avons pas attendu l'annonce formelle de la levée des sanctions. Il y a déjà quelque temps, le ministre des Affaires étrangères, Lubomír Zaorálek, a effectué un voyage en Iran avec une mission économique tchèque. Le ministre de l'Industrie, Jan Mládek, s'y trouve actuellement. Donc, nous n'attendons pas une minute, nous travaillons et allons travailler à nos relations avec l'Iran. Il est intéressant de rappeler que la Tchécoslovaquie de l'entreprise de guerre avait déjà des relations avec l'Iran, donc il y a là une forte tradition. La Tchéquie a une bonne réputation et je pense que nous avons toute une série de produits qui pourraient rencontrer le succès sur le marché iranien.
Česko má dobrý zvuk a myslím si, že máme řadu výrobků, se kterými jsme schopni na iránském trhu uspět.
C'est dans cet esprit que Jan Mládek a signé à Téhéran un accord de coopération économique avec le ministre de l'économie, Ali Tayebnia. Le social-démocrate explique que la Tchéquie ne peut directement exporter des biens comme des tramways. Il faut pouvoir les produire dans la région, voire sur place. Cet accord doit faciliter ce type de démarche. À Téhéran, où d'autres textes ont été signés entre représentants d'entreprises des deux pays, Jan Mládek a également inauguré une antenne de l'agence Czech Trade, laquelle doit contribuer à favoriser investissements et échanges tchéco-iraniens. L'argument de vente du ministre est bien rodé. Ce que je dis à mes partenaires, c'est que nous proposons tout simplement la qualité allemande à un prix plus acceptable. C'est un discours qu'ils comprennent bien. L'Iran est engagé dans différents conflits et nous souhaitons développer notre coopération sur d'autres bases, sur les bases d'un respect mutuel, sur le fait que nous ne voulons pas leur faire la leçon en même temps que nous ne voulons pas qu'ils nous la fassent. Nous pouvons coopérer de façon pragmatique.
Anna Hikelova de la Société d'assurance et de garantie des exportations détaille les secteurs où les sociétés tchèques peuvent proposer leurs services.
56 entreprises tchèques sont déjà actives directement en Iran, bien qu'une seule y dispose d'une représentation permanente. Mais il y a un énorme intérêt pour renouer avec des activités qui ont existé par le passé, la modernisation d'usines sucrières, l'industrie du textile et bien sûr l'industrie pétrolière ou la mécanique. Il faut mentionner le renom des verriers tchèques aussi. Il y a également un intérêt pour l'industrie des transports, pas seulement avec les tracteurs Zetor, mais aussi avec les tramways, les trolleybus, les automobiles. Ce sont autant d'opportunités sur le marché iranien.
Trolleybusy, tramvaje, automobily, to jsou všechno příležitosti pro iránský trh.
Hanna Hikelova fait référence à la signature durant la visite de M. Mladek d'un contrat avec la société Zetor, basée à Brno, portant sur la livraison à l'Iran de 250 tracteurs pour un montant de près de 3,5 millions d'euros. Par ailleurs, la levée des sanctions pourrait avoir une autre conséquence selon le chef du gouvernement Sobotka, puisque la République tchèque et les pays européens vont pouvoir diversifier leur approvisionnement en pétrole et en gaz naturel. Une association humanitaire tchèque a lancé un projet intitulé Kapka Jivota, une goutte de vie qui vise à améliorer l'accès à l'eau potable en Guinée. Pour ce faire, des puits doivent être construits dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Dirigé par Patrick Koutaï, le projet Kapka Jivota est à l'heure actuelle en phase intense de préparation à Conakry, où Antonio Antonucci, d'une autre ONG tchèque qui collabore au projet, s'occupe à l'heure actuelle des démarches administratives pour mener à bien ce dernier. Anna Kubishta l'a joint sur place.
En fait, moi je suis le fondateur de l'organisation Centrum Dialogue, et c'est avec Kapka Jivota. Ça, c'est un projet qu'on vient de commencer la collaboration avec M. Patrick. Ça fait 2 mois, comme ça, on est en contact. Et il nous a contacté parce que nous sommes depuis 16 ans, on a réalisé des projets scolaires avec nos partenaires en Guinée.
Et alors, quel est l'objectif premier de cette coopération? C'est évidemment la construction de ces puits. Est-ce que vous pouvez un petit peu détailler combien de puits sont prévus à la construction justement sur place?
Nous, pour le moment, comme on a 4 écoles avec qui on collabore ici en Guinée, voilà, on a décidé de consulter nos partenaires et voir la faisabilité d'abord de 4 puits. Pour commencer et surtout pour les réaliser et avoir l'expérience. Et maintenant, c'est aussi à Patrick avec son équipe de voir, bien sûr, si les premiers puits seront réalisés et ça fonctionne bien, on voudrait continuer dans ce projet.
Pourquoi est-ce que c'est important de construire des puits en Guinée?
Plus que chez nous, en Europe, il y a des zones qui ne sont pas asservies par le réseau d'eau potable. Et alors, ça peut être très utile pour les communautés locales avoir un accès à l'eau potable. C'est pour ça.
Et particulièrement pour les écoles, j'imagine.
Si, pour les écoles, pour les centres de santé. Nous, comme nous avons nous commençons par les écoles qui collaborent avec nous et après, on va essayer de continuer.
Comment ça se passe au niveau technique?
Au niveau technique, nous sommes pour le moment, on est sous l'administration parce qu'on doit d'abord avoir les permissions. Pour nous-mêmes de Centrum Dialogue, c'est un projet complètement nouveau et on a l'expérience pour la création d'écoles. Maintenant, pour percer des puits, des forages, on doit consulter les autorités pour savoir quels sont les documents ou quelles sont les permissions à faire.
Combien est-ce que coûte un projet tel que celui-ci et où est-ce qu'on trouve les financements pour le réaliser?
Les coûts, sincèrement, je ne suis pas renseigné dans les détails parce que c'est Patrick qui gère le projet Kapka Jivota et c'est lui qui connaît un peu les budgets. Et pour le financement, c'est aussi l'organisation Kapka, le projet Kapka Jivota qui est en train de contacter les sociétés comme Tatra, par exemple, qui fabrique les camions, et pour avoir une machine pour percer. Et ça, c'est du côté sponsor, non? C'est-à-dire trouver des sociétés qui veulent collaborer avec l'infrastructure. Après, il contacte aussi la société civile en Tchéquie, le public, pour avoir des financements, parce qu'il y aussi aura le prix des gens qui doivent venir en Guinée pour faire le travail. C'est-à-dire, il y a les dépenses de gestion qui seront nécessaires.
Comment se passe la coopération avec la population guinéenne sur place? Ça veut dire qu'il va falloir embaucher du monde? Ça veut dire que ça va donner du travail aussi aux gens?
Bon, pour le moment, il y a l'équipe tchèque qui doit venir pour faire les premiers puits. Et après, le responsable de Kapka Jivota a prévu même une forme, parce que nous avons des étudiants techniques ici. C'est-à-dire, c'est une vision aussi de les former, ceux qui seront intéressés, faire une formation pour le travail de percer les puits.
A priori, vous dites donc que là, on est dans la phase administrative d'obtenir des permis de construire, enfin des permis de forage, etc. Au niveau du planning, est-ce que vous voyez ça pour quand à peu près le début de la construction du forage du premier puits?
Sincèrement, madame, nous sommes intéressés à le faire le plus tôt possible, mais nous sommes au début et je ne connais pas encore les temps. Je ne peux pas donner une date encore. quand même, nous essayons de le faire le plus tôt possible parce que nous voulons que le projet avance et l'eau potable soit disponible.
On passe à la rubrique sportive de Guillaume Narguet. De tous les sportifs tchèques qui exercent leur talent en France, il est assurément celui qui possède le palmarès le plus fourni. Depuis son arrivée au Tour Volleyball en 2007, David Konechny a été sacré 5 fois champion de France et a remporté 6 Coupes de France. À 33 ans, l'attaquant international tchèque est non seulement le capitaine, mais reste également le meilleur joueur du meilleur club français de ces 10 dernières saisons. Guillaume Narguet est donc allé à la rencontre de ce qui ressemble fort, à la modeste échelle du volley, à un phénomène.
Sport en République tchèque.
L'occasion était toute trouvée samedi dernier à l'occasion de la 13e journée de la Ligue A, le championnat de France de volley, puisque Tours accueillait Beauvais dans un match qui mettait aux prises pas moins de 4 joueurs tchèques, tous actuels ou anciens représentants de l'équipe nationale. Et Guillaume Narguet a tout d'abord demandé à David Konechny comment cela était possible.
C'est vrai que depuis des années, les joueurs tchèques aiment le championnat français. Maintenant, ça baisse un peu le nombre de joueurs en Pro A, mais ici, il y a bonne qualité de championnat. Et pour les joueurs tchèques qui sont bien expérimentés, ça propose un bon niveau de jeu. Il y a beaucoup de choses qui rassemblent le jeu tchèque. Donc il y a beaucoup de défense, il n'y a pas énormément d'attaques extraterrestres, mais le jeu avec la tête et tout ça. Donc c'est comme le volley français, les joueurs tchèques peuvent proposer la même chose pour les championnats français.
Vous êtes ici depuis personnellement depuis maintenant 7 ans. Ce sont 7 années qui ont été très réussies. Comment, quel regard portez-vous sur cette expérience ici à Tours?
J'aime bien jouer à Tours parce que c'est la meilleure équipe en France. Chaque fois, on a réussi bon prolongement de contrat avec les dirigeants. Et je pense qu'on est satisfait les deux côtés. Pour moi, d'abord, je déteste se déménager. Je suis bien ici. Je sais que c'est le club qui est plus professionnel en France. Avec le soutien des villes et des régions, on est aussi bien fort économiquement. Donc on peut faire des belles choses comme on a fait les dernières années.
Est-ce que vous vous attendiez à quelque chose, à une telle aventure, lorsque vous avez signé ici pour la première saison en 2007-2008? Parce qu'on voit bien qu'il y a un vrai intérêt du public des Tourangeaux pour leur club de volley.
À Tours, volley c'est numéro 1. Heureusement pour nous que le foot reste dans la deuxième division. Le public aime du volley ici à Tours. On espère qu'on fait le plaisir pour eux avec nos victoires et notre jeu.
Est-ce que vous êtes en contact? Est-ce que ce soir vous allez discuter un peu avec vos adversaires tchèques? Il y avait notamment Andrzej Udeček que vous connaissez bien pour avoir joué avec lui en sélection.
On a discuté déjà hier parce que je suis parti le visiter à l'hôtel. Parce qu'on ne se voit presque pas du tout, donc on a un peu discuté hier soir, comment la vie marche, comment ça va et tout ça. Mais pendant les jours et après les matchs, pour eux, c'est un peu difficile de parler avec nous parce qu'on a gagné. Mais ouais, c'est des joueurs, Kral et Udeček, ils restent mes bons amis, même si on est débattu ce soir.
Un mot aussi sur votre jeune coéquipier tchèque, Bartosz. Pour lui, c'est un peu plus compliqué. On l'a vu ce soir, il n'a pratiquement pas joué.
Pour lui, c'est son deuxième année à l'étranger. Il est encore jeune, donc il a encore temps de montrer qu'est-ce qu'il peut proposer à l'équipe. Mais je me rappelle bien la saison dernière, il a fait quelques entrées super importantes et il a vraiment aidé l'équipe pour exemple passer au final des Coupes de France. Donc je suis très content qu'il est là et il fait du bon boulot.
Comment expliquez-vous l'intérêt des clubs français pour ces joueurs tchèques? Déjà, comment les trouvent-ils? Comment un joueur, un jeune comme Bartosz arrive ici à Tours dans un club qui est plusieurs saisons en suivant champion de France.
Notre manager général, il connaît presque tous les joueurs en Europe, donc il sait où quel joueur joue, comment il joue, s'il est sous contrat ou pas. Donc il a vu Adam jouer à l'équipe nationale, il m'a demandé comment il est, s'il est plutôt réceptionnaire, plutôt attaquant. Donc il m'a demandé, je lui ai dit que des bonnes choses. Et Adam, il est content qu'il est là parce que pour lui, c'était très important partir vers l'étranger et progresser encore plus.
Est-ce que c'est un rôle que vous pourriez envisager à l'avenir, c'est-à-dire suivre peut-être d'un peu plus près l'actualité ou le championnat en République tchèque pour ensuite conseiller un club, par exemple, comme Tours?
Je regarde le championnat tchèque juste un peu, plutôt les résultats, parce que j'ai déjà les volets assez dans ma tête, donc j'aime pas regarder les volets. Mais les résultats, je sais des bons joueurs. Déjà, quelques entraîneurs, soit entraîneurs, soit managers, me demandaient de quelqu'un. Donc, je peux dire comment il est, mais c'est jamais ma décision.
On suppose que vous avez eu des propositions d'autres clubs dans d'autres pays où le volley a une place encore peut-être plus importante qu'en France. Vous êtes toujours resté fidèle à Tours, c'est parce que vous êtes attaché au club, ou c'est parce que vous n'aviez pas envie de bouger, que vous êtes content dans un club qui marche relativement bien?
C'est vrai que maintenant ça rassemble, que je suis vraiment attaché sur Tours, mais quand on a prolongé mon contrat, on a chaque fois trouvé bonne solution pour deux côtés, donc j'ai pas eu de raison de changer le club. Surtout si probablement pas l'autre club en France, si je part de Tours, je vais partir vers Turquie, Pologne, quelque chose comme ça. Donc à France, je suis très content que je reste ici, parce qu'on a chaque fois, on est content les deux côtés, j'espère. Mm-hmm. Moi et les dirigeants.
Malgré tout, à la fin de votre contrat, vous envisagez de revenir en République tchèque ou rester ici encore en France?
Après ma carrière, je pense que je veux rentrer en Tchéquie, parce que la vie en France, c'est un peu cher, mais on a toutes nos familles en Tchéquie. Même si on a des amis ici, la famille, chaque fois d'abord. Donc après ma carrière, on rentre en Tchéquie, bien sûr.
Que pensez-vous des progrès effectués ces dernières saisons par l'équipe de France? Alors, elle vient d'échouer au tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques. Néanmoins, l'équipe de France a été sacrée championne d'Europe. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de France?
Pour l'instant, la team Yavbou, comme il dit, ils sont très forts, ils sont top dans l'Europe. Donc, j'aime bien comment ils jouent et comment ils peuvent faire la publicité pour les volets. Ça me plaît, je suis très content comment ils jouent et je le souhaite en. Départ pour Rio, début de janvier, ils n'ont pas fait, mais ils ont encore une chance. Et je souhaite à l'équipe de France le meilleur.
Est-ce que vous pensez qu'il y a, si elle se qualifie, une réelle chance de médaille aux Olympiques?
D'abord, il faut se qualifier. Je pense qu'ils sont capables de faire ça. Et la médaille, pourquoi pas? Il y a des équipes de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Sud. Donc, peut-être pour eux, ça peut être plus facile que gagner la Ligue mondiale ou le championnat d'Europe. C'est plus facile de gagner les Jeux olympiques.
Est-ce que vous sentez cet intérêt grandissant des gens en France pour le volley grâce à l'équipe de France?
Oui, bien sûr, je sens très bien. Il y a plus de monde qui vient à leur match. Il y a plus de monde qui supporte. Donc, c'est bon pour volley, c'est bon pour volley français.
Une dernière question, qu'est-ce qui vous plaît ou vous déplaît en tant que Tchèque dans la vie en France, dans le contact quotidien avec les Français? Vous êtes dans une région qui est relativement belle, agréable, calme, où les gens sont, on a l'impression que les gens sont relativement heureux de vivre, mais vous, en tant que Tchèque, qu'est-ce qui vous plaît ou vous déplaît en France?
Maintenant, ça me plaît vivre ici. Mes débuts en France, c'était très difficile parce que j'étais surpris par plein de choses, comment la vie marche ici en France, comment les Français sont capables de vivre avec leur arrivant chaque fois en retard. Mais maintenant, c'est ma 8e année ici, donc il y a presque rien qui peut me surprendre encore.
À Tours, on va probablement parler encore de la République tchèque au mois de juin prochain avec l'équipe de football qui logera à Tours. Peut-être y aura-t-il également des supporters qui viendront. Quels sont les endroits que vous appréciez plus particulièrement, les choses que vous appréciez plus particulièrement à Tours et dans la région alentour?
À Tours, c'est la région Val-de-Loire, bien sûr, les châteaux. Val-de-Loire, ça, c'est aussi le vent. Pour moi, je préfère le vent que le château.
J'allais vous demander.
Mais je sais que les joueurs de foot viennent ici.
Ils ne viennent pas pour les châteaux non plus.
Oui, exactement. Donc, s'ils n'ont pas d'entraînement jour après, je pense qu'ils peuvent goûter un petit peu du vent d'ici.
Pour fêter leur victoire.
Soit pour fêter la victoire, soit avant le jour de repos.
Merci.
De rien.
Voilà, c'est avec la rubrique sportive de Guillaume Narguet que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur notre site internet au www.radio.cz/fr ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou bien sur Facebook. À très bientôt, ahoy !